Radio Prague, les informations.
Bienvenue à l'écoute, voici les titres. Élections en Iran, la présidence tchèque de l'Union européenne se dit préoccupée. Le Premier ministre tchèque Jan Fischer sera à Londres ce lundi. Et puis en sport, en football, on annonce Jaroslav Plašil, l'international tchèque, bientôt à l'Olympique de Marseille. La présidence tchèque de l'Union européenne s'est dit préoccupée par les irrégularités présumées au cours de l'élection présidentielle en Iran et les violences qui ont suivi. La présidence indique par ailleurs espérer que le résultat de l'élection donnera l'occasion de rétablir le dialogue sur la question nucléaire et de clarifier la position iranienne à cet égard. La présidence attend que le nouveau gouvernement de la République islamique d'Iran prenne ses responsabilités à l'égard de la communauté internationale et respecte ses obligations internationales. C'est ce qu'ajoute la présidence tchèque dans son communiqué. Et selon l'ancien président tchèque, le résultat de ces élections iraniennes est inquiétant. À propos du président iranien réélu, Mahmoud Ahmadinejad, Václav Havel a déclaré à l'agence Cheteka « Nous connaissons tous ces déclarations qui sont très dangereuses et qui appellent à la vigilance et à une réflexion plus profonde et plus générale sur notre civilisation, ses dangers et l'obsession humaine, parce que cela n'a rien à voir avec la religion ou le patriotisme, il s'agit simplement de fanatisme ». Fin de citation. Le Premier ministre tchèque et président en exercice de l'Union européenne, Jan Fischer, devrait se rendre à Londres lundi pour y rencontrer son homologue britannique Gordon Brown. La préparation du prochain sommet européen est au programme des discussions, un sommet les 18 et 19 juin prochains qui sera le dernier rendez-vous important de la présidence tchèque de l'Union européenne. La semaine dernière déjà, Jan Fischer a commencé son tour des capitales par Berlin, puis Paris, pour rencontrer d'abord la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Nicolas Sarkozy. Selon les médias américains, le prochain ambassadeur des États-Unis à Prague pourrait être Mark Nathanson. Mark Nathanson a dans le passé présidé le conseil d'administration de Radio Free Europe, une radio américaine basée dans la capitale tchèque. D'après une enquête réalisée par le Los Angeles Business Journal, il est aussi le 39e plus riche habitant de la ville de Los Angeles. On passe au sport et je vous le disais en titre, l'ancien joueur de Monaco sous l'ère de Didier Deschamps, Jaroslav Plašil, se rapproche de l'Olympique de Marseille. Le transfert de Jaroslav Plašil à l'Olympique Marseille est en bonne voie selon le quotidien français La Provence, daté de ce dimanche. L'international tchèque est actuellement sous contrat à Osasuna Pamplune dans le championnat espagnol. Et puis en athlétisme, toujours pour vous rappeler que Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde, le sprinter jamaïcain, est arrivé en République tchèque. À part quelques excursions touristiques, il va s'entraîner jusqu'à mercredi soir et le 100 mètres qu'il dispute pour le meeting d'Ostrava. Avec lui d'autres stars de l'athlétisme et notamment la tchèque, la lanceuse de javelot Barbora Špotáková. La météo est au beau fixe en ce moment à Prague avec une semaine plutôt maussade et le beau temps devrait se poursuivre pour ce début de semaine. On se retrouve bientôt et tout de suite, c'est la suite du programme en français de Radio Prague. Ah,
culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle rubrique de Culture sans frontières. Une fois n'est pas coutume, comme la semaine dernière, c'est encore la littérature qui sera à l'honneur dans cette rubrique culturelle. La 19e édition du Festival des écrivains de Prague s'est achevée jeudi. Nous revenons aujourd'hui sur l'invité principal de ce rendez-vous littéraire, le poète français d'origine syrienne, Adonis. Un homme qui a donné un souffle nouveau à la poésie arabe, un homme d'engagement politique aussi. Rencontre. Adonis, de son vrai nom Ali Ahmed Saïd Esber, est né en Syrie en 1930. L'histoire de l'accession aux études de ce fils de paysan lettré est digne d'un conte de fées. On l'écoute.
Moi, je suis né dans un village très pauvre et il n'y avait pas d'école chez nous. Il y avait l'école coranique. Dès mon enfance, je n'ai pas aimé cette école. Mais quand même, j'ai appris la comment écrire et comment lire. Et je suis resté comme ça jusqu'au, sans école, jusqu'au l'âge 12 ans, 12, 13 ans. Et à ce moment-là, c'était en 1943, je crois. Et on a eu l'indépendance et on a élu un nouveau président pour la nouvelle République. Et le nouveau président a voulu, a aimé de voir, de visiter le pays pour mieux le connaître et connaître le peuple, les gens. Et il devait passer par notre région et donc visiter la ville. Et je me suis dit, j'ai rêvé un rêve que je vais écrire un poème en arabe et je vais lire ce poème devant le président et le président va aimer le poème et il va me demander qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon petit. Et je répondrai, j'aimerais entrer dans une école.
Ce que le jeune garçon a rêvé alors se réalise, il lit le poème et le président syrien lui permettra de faire des études dans le dernier lycée français de Syrie à l'époque. Et il poursuivra plus tard des études de philosophie. Parallèlement, celui qui ne s'appelle pas encore Adonis écrit des poèmes et tente en vain de les faire publier dans des revues. C'est encore quand il est étudiant qu'il choisit comme nom de plume, nom de bataille aussi, le nom d'Adonis.
C'est moi qui ai choisi ça. Ça avait des raisons pratiques. J'écrivais des petits textes, petits poèmes signés de mon nom vrai, Ali Ahmad Isbert. Mais aucun journal, aucun magazine ne publiait. Un jour, j'ai par hasard vu un magazine et j'ai lu la légende d'Adonis. Comment il était un dieu de la beauté, comment Astarté l'a aimé. Astarté, c'est le prototype de Vénus. Et comment il est allé une fois à la chasse, chasser le sanglier, mais le sanglier l'a surpris et au lieu d'Adonis tuer le sanglier l'a tué. Et comment s'est transformé en fleur rouge et comment toutes les années la rivière. Il y avait une rivière, il y a jusque, ça existe toujours au Liban, qui s'appelait la rivière d'Adonis. Toutes les années, l'eau devient rouge. Et on disait dans le temps, c'est le sang d'Adonis. Et donc, je me suis dit, voilà, ces journaux, ces magazines qui ne me publient pas, ce sont le sanglier qui essaie de me tuer. Et c'est pourquoi je vais signer Adonis.
Peut-être pied de nez un peu espiègle au départ, ce pseudonyme est peu à peu devenu l'étendard du poète. Pour cet homme farouche défenseur de la séparation de la religion et de l'État, prendre le nom d'un dieu païen issu d'une croyance polythéiste au sein d'une société musulmane qui ne badine pas avec la foi avait en tout cas le mérite d'être clair. Car Adonis combat tous les intégrismes, il a notamment pris position en France contre le voile.
Il faut séparer la religion de la politique ou la religion de l'État, comme a fait l'Occident en ce qui concerne l'Église. L'Occident n'a pas réalisé son progrès scientifique et autres qu'à partir de cette séparation entre l'Église et l'État. Et il faut, chez nous, créer d'abord la société civile. Et on ne peut pas arriver à créer cette société sans séparer la religion de l'État. Et c'est notre, c'est ça notre combat. Donc ce n'est pas seulement un combat politique, c'est un combat culturel et un combat de civilisation. Sachant que pour moi, la politique fait partie de la culture. Et si on change seulement la politique, c'est-à-dire les régimes, ça ne change rien. Il faut insister sur le culturel, sur l'aspect culturel, parce que si on ne change pas le culturel, on ne peut pas changer le politique. Comme par exemple, on parle ici maintenant de la démocratie dans le monde arabe. Oui, pour la démocratie, on ne peut pas dire non. Mais une démocratie dans une société qui n'est pas une société civile, ça serait catastrophique et ça serait antidémocratique. Ça serait les forces de la régression, des forces religieuses qui l'emportent. Donc il faut d'abord créer cette société civile, cette société qui n'a pas de religion en tant que société, et après la démocratie, ça, mais pas avant. Comment pas le maintenant chez nous?
Adonis s'est fait le chantre d'une poésie militante, pas nécessairement par son contenu, mais par l'affirmation de la poésie comme rempart à l'inhumanité. C'est le sens de ses paroles lorsqu'il dit que la poésie rend la vie sur Terre plus belle, moins éphémère et moins misérable, et que la guerre, lutte collective, relève de l'esprit de troupeau et fait régresser l'homme vers la barbarie et l'inhumanité. Le rapport d'Adonis à la poésie est quasi organique, comme une nécessaire extension de soi.
On parle de la poésie qui exprime l'être humain. Oui, je veux bien, mais comment exprimer l'être humain? On ne peut pas exprimer l'être humain, c'est impossible. Donc j'ai dit, la création, la poésie doit être la continuité de l'existence de l'être humain, continuité sur tous les plans. Ça peut-être serait mieux, on sera plus proche de la poésie qu'en disant que la poésie exprime la réalité. Ça serait une fonction, donner une fonction à la poésie. La poésie serait un moyen pour quelque chose. Et moi je suis contre. Tout doit être moyen pour la poésie, et pas le contraire. L'autre chose, à partir de ça, il faut repenser la notion de la poésie et même la notion du poète. Qu'est-ce qu'un poète? Voilà le problème maintenant, surtout maintenant après les révolutions poétiques qu'on a eues, après le classicisme, le romantisme, etc., jusqu'au surréalisme. Il faut repenser la notion du poète. Qu'est-ce qu'un poète? Pas seulement qu'est-ce que c'est la poésie. Et ça, c'est pas, ça, il faut. Heureusement qu'il n'y a pas une réponse définitive à ces problèmes, à ces questions, parce que une fois qu'on a une réponse définitive, vraiment définitive, on tombe dans la religion.
Adonis, poète exilé de Syrie, puis du Liban, qui a trouvé en France une terre d'accueil, reste toutefois un nomade. Il est habité par la poésie autant qu'il y habite, même s'il confie qu'il n'a qu'une seule patrie.
J'ai un seul pays, moi, c'est la langue arabe. La langue, ma langue mère, c'est ma patrie. Donc je suis arabe, de culture, de langue, plutôt que je ne suis pas arabe en tant que race, ou bien syrien, ou bien libanais, je préfère être arabe. Mais arabe dans le sens culturel du mot, pas dans le sens national du mot.
Contrairement à tant d'autres grands noms de la littérature, qu'on pense à Beckett, Kundera ou Ionesco, qui ont choisi un jour de ne pas s'exprimer dans leur langue maternelle, pour Adonis, la question de la langue en poésie est cruciale et relève d'un lien presque primitif.
Moi, j'ai jamais écrit de la poésie en français, jamais. Parce que on ne peut pas avoir deux mères. On peut peut-être avoir beaucoup de pères, mais on a une seule mère. Ce qu'on appelle donc la langue mère, c'est la langue de la créativité, c'est la langue de la poésie. Et je crois que on ne peut pas dire que Rilke, par exemple, qui a écrit en français un recueil de poèmes, que sa grande poésie est dans la langue française. La langue française reste dans la langue allemande, sa langue mère. Et de même, Kundera n'a pas écrit de la poésie, il a écrit des romans. Les romans, c'est autre chose. Donc on peut écrire à la rigueur des romans, des pièces de théâtre, des essais, mais jamais de la grande poésie. On ne peut pas être grand poète dans deux langues.
Poète, Adonis l'est par les mots, il l'est aussi par ses rakimas, des collages qu'il réalise avec des objets ramassés auxquels il insuffle une autre vie.
J'invente des espaces poétiques dans une autre langue et dans un autre alphabet, disons. L'alphabet des choses négligées et qui ne signifient rien, mais j'apprends ces choses qui ne signifient rien et j'essaie de donner un nouveau sens en les composant, en les structurant sur le papier avec de l'écriture. Mais j'essaie de créer un autre poème, mais au-delà de la langue arabe.
Et avant de clore cette émission, je vous propose la lecture d'un poème d'Adonis, traduit de l'arabe par François Xavier et publié dans L'Orient le Jour du 12 mars 1998. Un poème qui donne la mesure de la magnifique plume d'Adonis.
J'ai écrit mon identité à la face du vent, j'ai oublié d'écrire mon nom. Le temps ne s'arrête pas sur l'écriture, mais il signe avec les doigts de l'eau. Les arbres de mon village sont poètes, ils trempent leurs pieds dans les encriers du ciel. Se fatigue le vent, et le ciel déroule une natte pour s'y étendre. La mémoire est ton ultime demeure, mais tu ne peux l'y habiter qu'avec un corps devenu lui-même mémoire. Dans le désert de la langue, l'écriture est une ombre où l'on s'y abrite. Le plus beau tombeau pour un poète, c'est le vide de ses mots. Peut-être que la lumière t'induira en erreur. Si cela arrive, ne crains rien. La faute est au soleil.
C'est la fin de cette émission culturelle qui a été consacrée cette semaine au poète français d'origine syrienne Adonis. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Bon vent, ahoy.
Vous avez dit la République tchèque, voyagez donc. Jarka Gregorova.
Zlín est le centre industriel et commercial de la Moravie centrale. La ville renommée grâce aux entreprises de production de chaussures de Tomáš Baťa, dont les succursales se trouvent dans le monde entier, fut au début du XIVe siècle une ville artisanale. Le cours tranquille de la vie urbaine changea après la révolution industrielle qui apporta des changements considérables. Vers la fin du XIXe siècle, la famille Baťa fonda une entreprise de production de chaussures. Le grand essor de l'entreprise commença sous la direction de Tomáš Baťa, élu également maire de Zlín. La production des entreprises Baťa continua même après la nationalisation qui suivit le coup d'État de 1948, mais évidemment sous une direction communiste. Dans la ville, on retrouve de fameux bâtiments construits pendant l'entre-deux-guerres dans un style fonctionnaliste grâce à Tomáš Baťa et à des architectes renommés de l'époque tels que Jan Kotiera. Et il ne faut évidemment pas oublier les ateliers de cinéma de Zlín, réputés dans les années 60 pour les dessins animés de Hermina Tirlova et Karel Zeman. Sinon, il est intéressant de visiter à Zlín le musée de la chaussure. La ville est également un centre culturel et, entre autres, accueille le Festival de la musique classique, le Festival de films pour enfants et la jeunesse ou le Festival des ensembles de théâtre amateur. Dans les environs de Zlín, on peut visiter par exemple le château de Malenovice, l'église gothique à Tečovice ou le parc naturel, les clairières de Želechovice. Il est également possible de naviguer sur le canal de Baťa, qui est d'une longueur de 50 km, et il est navigable de Trokovice jusqu'à Strážnice. C'est une vraie merveille technologique.
S Bohem galánečko, já už musím jíti. S Bohem galánečko, já už musím jíti. Kyselé vínečko, kyselé vínečko, podala sněh pítí.
Non loin de Zlín se trouve la ville de Holešov, située au bord de la rivière Rusava. L'existence de Holešov date du XIIe siècle, mais à l'époque ce n'était qu'un hameau. Ce n'est qu'à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle que le hameau a obtenu le statut de ville. Au cours de la guerre de 30 ans, la ville a été pillée par les Suédois, puis par l'armée impériale et deux tiers de la ville ont été ravagés par l'incendie. La ville a connu un grand essor à partir de 1650 sous le règne des comtes de Rottal. C'est à cette époque que le château de Holešov a été construit et l'intérieur décoré par les artistes italiens. Au XIXe siècle, l'industrie à Holešov était assez développée. Il s'agissait en particulier des industries de transformation du bois, du meuble, de la maille et alimentaire. Plus tard, ce fut également l'industrie du cuir, brassicole, de la malterie, de la transformation des métaux, chimiques et de l'imprimerie. Il est à noter que l'imprimerie du lithographe Lambert Klabusaj est l'une des plus anciennes en Bohême.
Ještě včíl sa stydím, co jsem všecko trobí. Ještě včíl sa stydím.
Holešov est aussi le siège de la société Gallia, Zlín, Sarles, grossiste de vin et produit de la gastronomie française. La société avec 600 mètres carrés d'entrepôt a été créée il y a plus de 10 ans par Cyril Berry et son épouse arrivée de France à Zlín en 1994. Le magasin de la société Gallia, Teravina, avec une cave destinée aux dégustations de vins et aux présentations de produits de la gastronomie française, se trouve à Prague, au fond de la place de la vieille ville. C'est dans la cave de 100 mètres carrés, datant du XVe siècle, que nous avons rencontré le propriétaire de la société, Cyril Berry, à l'occasion de la dégustation d'huile d'olive et de vinaigrette en avril dernier.
Ici, vous faites des dégustations tous les mois, si j'ai bien compris.
Même tous les 15 jours, on fait des dégustations tous les 15 jours. Il y a plusieurs types de dégustations. On fait des dégustations de vin pur, des dégustations commentées. On fait des dégustations comme on en fait ce soir, une dégustation avec présentation de la gastronomie française, avec recettes de cuisine et démonstrations sur place. Là, nous faisons démonstration de vinaigrette et de salade. Bien sûr, une salade simple, ou une salade de riz plus complexe, mais montrer comment on fait une vinaigrette, comment on l'utilise, et voir que c'est différent de ce qui peut se faire à la maison ici en Tchéquie, pour que la gastronomie française entre aussi dans les maisons tchèques, on va dire. Et bien sûr, toujours, dans ces cas-là, on essaye d'associer au mieux un vin ou deux ou trois, parce que c'est aussi notre métier de proposer toujours des vins.
Vous avez présenté des huiles d'olive vierges. Quelles sont les marques ou les sortes que vous avez présentées? Ce sont vos marques, si j'ai bien compris, ou ce sont d'autres marques que vous avez présentées?
Ce sont des huiles que nous importons. D'une part, il y a les huiles de la marque à l'olivier, qui est un grand spécialiste en France, qui a beaucoup d'huile. Et d'autre part, nous avons l'huile d'un tout petit producteur, le domaine des Vôtres, qui est à Montpellier. Donc à la fois on travaille avec des relativement grandes sociétés spécialistes de l'olive et à la fois avec des tout petits producteurs qui ont des choses très spécifiques et excellentes aussi.
Vous êtes arrivé sur le marché tchèque il y a à peu près 15 ans et est-ce que vous voyez une évolution au niveau de la gastronomie des Tchèques et de la connaissance des vins français ?
Effectivement, il y a 15 ans c'était assez difficile au niveau de la gastronomie et des vins. Ils avaient eux-mêmes au niveau des vins tchèques, c'était pas encore aussi développé que maintenant. Il y a eu une très grande évolution et une très grande évolution des palais tchèques, notamment sur les vins blancs, où ils commencent à apprécier vraiment des grands vins blancs français. Donc il y a eu une réelle évolution du palais, et bien sûr au niveau de la gastronomie. Tout ça se fait pour certains trop lentement, pour certains peut-être qui sont trop ouverts, mais enfin le Tchèque est ouvert et évolue positivement, en tous les cas vers un palais beaucoup plus fin.
Le Moravie est reconnu par ses vins, en Bohême en tout cas. Les Français disent que le blanc est meilleur que le vin rouge. Est-ce que c'est aussi votre opinion ?
J'ai pas d'opinion très marquée sur les vins tchèques, parce que d'abord, on n'en fait pas, et on en goûte bien sûr à Zlín avec des amis, on fait des soirées. Effectivement, bon, ils ont des très bons vins blancs. Effectivement, d'une manière générale, les vins se sont beaucoup améliorés depuis 15 ans, et les vins tchèques, du reste, sont maintenant des vins souvent très bien cotés. Ils ont quand même plus de succès sur les blancs que sur les rouges, mais je suis pas un spécialiste des vins tchèques pour dire si les vins rouges sont mieux que les vins blancs ou à l'inverse.
C'était Cyril Berry, propriétaire de la société Galliazlin, Sarles.
Ale sa nehněvá, že jsi mě ošidila. Ale sa nehněvá, že jsi mě ošidila. To ta moja žízeň, to ta moja žízeň, ta to zaviní.
Et une petite recette de gâteau morave ne saurait manquer, chers auditeurs. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut 500 g de farine, 100 g de sucre cristallisé, 100 g de beurre, 2 jaunes d'œufs, 30 g de levure, 5 g de sel, 1 quart de litre de lait, de l'écorce de citron et un sachet de vanille. Il faut diviser la pâte levée en morceaux de 40 à 50 g la pièce, puis les arrondir et les étirer en galettes. Ensuite, poser la farce de fromage blanc sur les morceaux de pâte, puis presser les bords vers le milieu et former des petites miches. Ensuite, il faut faire un petit creux dans les gâteaux et y placer de la confiture, soit de framboise, de fraise ou enfin, c'est au choix. Ensuite, placer les petites miches sur une plaque graissée et les faire cuire au four pendant plus ou moins 30 minutes à feu modéré. Chers auditeurs, vous retrouverez la recette sur nos pages internet. L'émission de Radio Prague en langue française se termine, chers auditeurs. Toute l'équipe vous remercie de votre attention et nous sommes toujours prêts à recevoir vos remarques, idées et suggestions.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC